Alors, grand défi de... Parce que d'une certaine manière, ce qu'a dit notre conférencier ce soir est déjà théologique. Et donc, pour ma part, en quelques mots, j'ai voulu essayer de rebondir un peu sur le premier point du manifeste de la FAFC. N'oubliez pas de le prendre en sortant. Posant la question, quel regard théologique porter sur le déclin démographique de l'Europe et sur une éventuelle intervention des pouvoirs publics à cet égard, puisqu'effectivement le manifeste demande qu'on puisse effectivement proposer des solutions pour inverser la tendance. Et donc d'abord on peut se demander s'il n'existe pas des précédents magistériels sur cette question. Bon, mon enquête n'a pas pu mener très loin, mais Jean-Paul II semble être le premier à la mentionner. En 1987, dans Sollicitudori Socialis, examinant le problème de la forte croissance démographique dans les pays du Sud, il écrivait « Il est bon d'ajouter tout de suite que dans la zone Nord, ce problème se pose en termes inverses. Ce qui y est préoccupant, disait-il, c'est la chute du taux de natalité, avec comme répercussion le vieillissement de la population, devenue incapable même de se renouveler biologiquement. » Déjà 1987, le constat était connu. Le pape se contentait cependant à ce sujet d'un commentaire laconique « Ce phénomène est susceptible de faire obstacle au développement. » Il ne traitait pas ce phénomène pour lui-même. Examinons alors les textes magistériels concernant cette fameuse croissance démographique dans les pays du tiers-monde. Croissance considérée par beaucoup à l'époque comme dangereuse pour le développement de ces pays et pour laquelle il fallait prendre des mesures drastiques. C'est Jean XXIII qui, le premier, sauf erreur de ma part encore une fois, a affronté dans Mater et Magistra en 1961, juste avant le Concile, cette prétention. Il sera suivi d'ailleurs de la Constitution Gaudium et Spes, de plusieurs documents de Paul VI et de Jean-Paul II. Donc tâchons de voir si cet enseignement qui commence avec Jean XXIII, eh bien, si ces affirmations ecclésiales dans ce contexte valent pour le contexte opposé qui est celui de l'Europe. Est-ce que dans le fond, ce qui a été dit par rapport à la natalité dans les pays du tiers-monde peut être assumé pour nous éclairer dans la question de l'hiver démographique que nous traversons? Alors premièrement, le pape Jean XXIII tenait à affirmer nettement que ces problèmes ne doivent pas être résolus par le recours à des moyens indignes de l'homme, dérivant, disait-il, d'une conception nettement matérialiste de l'homme et de la vie. C'est le principe, en quelques mots ici, du respect de la loi morale, qui reste bien sûr valable, c'est trop évident, mais ça va mieux en le disant, si l'on projette d'inverser la tendance démographique en Europe. Ceci impliquerait par exemple le refus de la procréation médicalement assistée ou de la gestion pour autrui comme solution éventuelle, si ça venait à l'esprit de certains. Deuxièmement, Gaudium et Spes déclare que en vertu du droit inaliénable de l'homme au mariage et à la procréation, la décision relative au nombre d'enfants à mettre au monde dépend du jugement droit des parents et ne peut en aucune façon être laissée à la discrétion de l'autorité publique. Donc on voit évidemment l'éclairage que ça donne sur les politiques natalistes en tiers-monde, mais ce principe resterait valable pour toute tentative de stimuler la natalité en Europe. La décision ultime reviendrait tout de même aux parents. Troisième point, Mater et Magistra, toujours de Jean XXIII, enseignait la providence divine à accorder au genre humain des moyens suffisants pour résoudre dans la dignité les problèmes multiples et délicats de la transmission de la vie. Concernant notre hiver démographique, comme chrétiens, je pense que nous pouvons toujours croire que des solutions providentielles se présenteront. certes offerte à notre responsabilité courageuse. C'est pas l'idée ici que, voilà, sans moi vous ne pouvez rien faire ne veut pas dire Jésus fera tout et nous rien. Mais serons-nous assez nombreux à vouloir de ces solutions? Quatrièmement, Paul VI écrit dans Populorum Progressio, 1967, il est certain que les pouvoirs publics, dans les limites de leurs compétences, peuvent intervenir en développant une information appropriée et en prenant des mesures adaptées, pourvu qu'elles soient conformes aux exigences de la loi morale et respectueuses de la juste liberté du couple. Donc les deux premiers points dont je parlais tout à l'heure. Appliquons le printemps démographique espéré nécessite, et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, la diffusion d'une authentique information, d'un vrai débat, d'une véritable éducation et d'une liberté suffisante pour la recherche qui ne soit pas biaisée par des a priori idéologiques. On se demandait par exemple dans le texte que nous avons travaillé ce matin sur la démographie et l'économie, les auteurs disaient mais il y a un silence assourdissant des projections démographiques concernant l'Europe et de ce suicide démographique. Comment ça se fait que personne n'en parle? En tout cas, le principe est admis dans cet enseignement pontifical d'un rôle positif à jouer par les pouvoirs publics. Ces quatre points, respect de la loi morale, respect de la liberté des parents, confiance en la divine providence, intervention limitée des pouvoirs publics, sont des principes qui apparemment valent aussi bien dans un projet de stimuler la natalité que pour la réduire, puisqu'ils ont été énoncés dans un contexte où on voulait la réduire. Mais ces deux projets sont-ils théologiquement équivalents comme projet? Sont-ils seulement liés aux circonstances? Les pouvoirs publics devraient-ils ainsi osciller entre des phases natalistes et antinatalistes? Les circonstances jouent sûrement un rôle, mais ceci ne doit pas occulter l'a priori ecclésial en faveur de la fécondité. Cet a priori manifeste une confiance fondamentale envers la divine providence et découle du commandement primordial qui fait suite un peu à celui qui a été cité tout à l'heure par M. Renard. Soyez féconds et multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Ce commandement n'est jamais contredit dans les textes évoqués, les textes des papes dont je vais parler. Restant sauf, bien sûr, l'enseignement ecclésial sur la paternité responsable. Pour employer un langage juridique, je dirais que la charge de la preuve se trouve chez ceux qui affirment qu'il faut réduire la natalité. Et donc oui, par conséquent, le soutien envers les familles est a priori nécessaire toujours et partout. Et oui, les stimulants, tels que des allocations familiales, j'ai pas beaucoup d'imagination personnelle envers d'autres stimulants, mais sont a priori un devoir pour la collectivité. Toute la société n'a-t-elle pas une immense dette envers l'institution familiale? Je vous remercie.